Vous écoutez RTL.
Bonjour, le meilleur de Confidentiel spécial été sur RTL. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Une heure sur les traces d'une célébrité, le chemin emprunté pour accéder au succès, à la célébrité. Une route qui n'est jamais toute droite, on va le voir, et qui cache bien des pièges, des renonciations et même parfois des mensonges. Cette route-là, c'est celle d'un immense chanteur qui nous a quittés le 16 avril dernier. Ce matin-là, la France s'est brutalement retrouvée orpheline de cette silhouette et de cette voix unique. Chanteur et musicien qui aimait bien d'ailleurs afficher cette allure de dandy mystérieux, jouer avec la lumière et surtout avec les ombres, la nuit, avec le rock et les mots bleus. Dans les pas du dernier des Bévillacois, Christophe, dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard, Confidentiel.
Christophe est un prénom qui n'a jamais existé. La signature d'un homme qui a passé sa vie à disparaître, passé maître dans l'art de brouiller les pistes, de fuir la lumière pour s'évanouir dans la nuit, insaisissable comme le sont tous les fantômes. Daniel Bévillacois est né à l'aube des années 50 dans une France qui reprend goût à la vie. Son père tient une boutique d'électroménager dans la rue principale de Juvisy-sur-Orge, dans la banlieue sud-est de Paris. Sa mère est couturière pour les grandes maisons de l'avenue Montaigne ou de la rue Saint-Honoré. Une petite main, comme on dit dans le métier. Bévillacois est un nom italien, hérité d'un grand-père arrivé du Frioul au début du siècle. Le futur Christophe, entouré d'un frère aîné et d'un cadet, connaît une enfance insouciante et libre, dans laquelle il ne va pas toutefois s'attarder. L'école l'ennuie, il y collectionne les notes médiocres. Il préfère flâner, perdre son temps comme lui reprochent ses professeurs, dessiner et écouter sa mère chanter quand elle fait de la couture. Tous les dimanches, la famille se rend rue Gabriel, à Montmartre, chez une grand-mère blanchisseuse. Elle aussi chante, et c'est chez elle que Christophe a son premier choc en entendant à la radio John Lee Hooker. Ça m'a frappé, j'avais 13 ans, se souviendra parfaitement le chanteur. Plutôt que d'aller à l'école, celui qui va s'appeler Christophe préfère donc apprendre à jouer à la pétanque avec son grand-père, écouter Elvis, et la nuit emprunter la voiture de sa mère. Pas de permis de conduire en poche, mais le fils Bévillacois fonce au volant de la Simca à ronde maternelle dans les rues désertes de Juvisy. Il a créé ici un circuit imaginaire qu'il sillonne durant une heure ou deux, recherchant, dit-il, la trajectoire parfaite, comme hypnotisé par le ruban d'asphalte. À 15 ans, le divorce de ses parents scelle définitivement le destin de celui qui ne va bientôt plus s'appeler Daniel Bévillacois. Il n'ira pas plus loin que la seconde et ne sera jamais candidat au bac. Il opte pour une fugue qui va durer toute sa vie, voler de ses propres ailes, sans s'attacher au passé, en ignorant l'avenir et en ne vivant que l'instant présent. Venez danser, tout seul en commotion, ah oui. Le futur Christophe passe ainsi son temps dans les salles de cinéma ou bien au Globe, une académie de billard qui a tout d'un décor de polar, chez les disquaires ou à Saint-Germain-des-Prés pour draguer les filles. À Paris, il loge gratuitement à l'hôtel Princesse. Les patrons aiment bien ce jeune garçon poli et souriant qui fait de la musique avec la guitare de son grand frère. Sa grand-mère connaît son goût pour les voitures de sport. Elle lui a donc offert une médaille de Saint-Christophe, saint patron des voyageurs et des automobilistes. Lui, qui joue alors du blues dans les clubs du quartier latin, l'Orphéon ou le Bilboquet, s'approprie ce prénom. Dès lors, plus personne ne l'appellera Daniel Bévilacqua, on dira simplement Christophe.
Le premier titre connu de Christophe revient à Sophie dans Confidentiel.
RTL. Confidentiel.
Le jeune Christophe traîne et le jeune Christophe ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Quelques billets gagnés avec sa guitare, un peu d'argent de poche en embrassant une fille dans un café pour un roman photo du journal Lou 2, de vagues rêves d'acteur, même s'il se trouve trop petit, 1m65, il rêve d'en avoir 10 de plus, l'envie de se faire embaucher dans un cirque, ou encore même celle de travailler dans une maison de couture, lui qui adore les costumes et qui a vu coudre sa mère. Il pousse un jour la porte de la maison Pierre Cardin en demandant à voir le couturier. Mais Cardin n'est pas là. Si je l'avais rencontré, j'aurais peut-être été dans la mode. La question est toujours d'être au bon endroit et au bon moment, racontera le chanteur. Pour Christophe, le bon endroit et le bon moment arrivent à l'été de ses 16 ans. Il part tout seul en autostop en Espagne. Il fait la manche en jouant de la guitare, puis se retrouve à la fin du mois d'août à Juan-les-Pins, où se tient la finale 1961 de la Coupe du Monde de rock'n'roll. Rien de grandiose derrière cette affiche pompeuse, mais une invention commerciale d'Eddie Barclay, qui a réussi à attirer à ce concours l'une des idoles du moment, l'archange noir du rock, Vince Taylor. We got the feeling. Vince Taylor aime bien ce Christophe, petit blond qui n'a peur de rien et veut monter sur scène. Il lui laisse donc sa chance. à Christophe de chauffer le public en vedette anglaise, celle qui passe au tout début du tour de chant, avant la vedette américaine et avant, bien sûr, la star toute de cuir vêtue. Cet été-là, Christophe jouera aussi dans l'orchestre d'un débutant nommé Nino Ferrer. De retour à Paris, il montera son seul et unique groupe, lui l'artiste solitaire, Danny Baby et les Hooligans. À force d'écumer les petites scènes et de jouer lors des entr'actes dans les cinémas de quartier, Christophe débarque au Golf Drouot, le temple des yéyés. Le chanteur ne porte pas de blouson noir à la Vince Taylor ou de banane à la Presley, mais des costumes impeccablement repassés et la plus sage des coupes de cheveux. Sa voix ne passe pas inaperçue et Barclay lui offre un contrat. Mais le jour de la signature, Christophe disparaît. La maison de disques n'a que son prénom et le retrouvera quelques jours plus tard. Première évaporation de Christophe, qui aura vite la réputation d'un garçon gentil, mais totalement imprévisible. Son premier 45 tours, où il bondit comme un tigre sur la pochette, passe inaperçu.
C'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur tirer dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne connais pas mes leçons par cœur. Si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est qu'un autre à ma place est toujours le premier. Excusez-moi, monsieur le professeur, si j'ai toujours les idées ailleurs. Si les pages sont blanches de mes pauvres cahiers, c'est qu'il y a trop de branches aux arbres des forêts. Et si j'aime les branches, si j'aime la forêt, c'est parce que vous m'avez défendu d'y grimper. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je connais les oiseaux par cœur. Si quand vous faites l'appel, je vous réponds absent, c'est parce que j'ai perdu votre école et pourtant je la cherche partout, à travers mille champs. J'ai perdu mon chemin, je reviendrai demain. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne sais jamais rien par cœur. Mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur tirer dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé.
1966, excusez-moi monsieur le professeur, confidentiel Christophe aujourd'hui sur RTL.
Confidentiel.
Sur RTL.
Daniel Bévilacqua dit Christophe, qui en ces années 50-60 n'est pas encore une star, mais dans tous les cas semble d'ores et déjà bien décidé à n'en faire qu'à sa tête. On passe en revue cette enfance et cette adolescence avec notre invité Christian Eudeline. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Christian Eudeline, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de cette toute nouvelle revue vinyle et audio, excellent connaisseur de la scène rock et fatalement de Christophe. Vous aviez d'ailleurs publié une biographie très détaillé du chanteur Christophe, portrait du dernier dandy chez Fayard. Christian Eudeline, l'enfance de Christophe, c'est vraiment une enfance, on pourrait dire, buissonnière, pas seulement pour l'école d'ailleurs. C'est à croire qu'il n'a pas de règles, Christophe, dans sa vie.
Il n'a pas de règles. Je pense qu'on est dans la génération qui est marquée par d'abord un livre très important, Sur la route, de Jacques Kerouac. On est en plein apogée de l'ère beatnik. Christophe est un des premiers beatniks, mais comme il a des origines italiennes, il ne sera jamais crado. C'est-à-dire que c'est un beatnik, mais chic, classe. Voilà, bravo. Un beatnik chic.
Un beatnik chic. Pourquoi et comment Christophe se passionne-t-il pour la musique ?
Alors, c'est d'abord la famille, hein. C'est sa maman joue du piano, sa grand-mère est chanteuse, son grand frère un jour essaye la guitare, et puis il l'abandonne, et la guitare elle est là, et voilà. Donc la musique elle est quand même dans le coin. Et puis on est de la génération de ces gamins qui à 10-12 ans entendent Elvis Presley, Eddie Cochran, Gene Vincent, tous les premiers rock'n'rollers. C'est à peu près la même génération que Johnny Hallyday, que Eddie Mitchell, etc. Ils vont se dire, mais on a envie de rentrer dans cette histoire, c'est trop important pour que on l'ignore. Et le rock'n'roll, c'est aussi la liberté, c'est-à-dire que on va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est la première génération d'ados, parce que quand ils commencent, il a 15-16 ans, qui ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent.
Et comme Johnny, on apprend sur le tas.
C'est un autodidacte complet. Il savait à peine lire la musique. Hein. Les anecdotes, c'est que quand il a voulu commencer à jouer du piano sur scène, il a réappris à jouer avec une concertiste. Et il a commencé à apprendre à lire la musique.
Parlez-nous, Christian Hedelin, de cette première échappée belle. C'est l'été de ses 16-17 ans. Là, il y a une révélation.
Il a envie de voir du pays. Il se retrouve sur la côte, vers Juan-les-Pins, vers Antibes, ce genre de ville. Il a une guitare, il fait un peu la manche. Voilà, c'est une adolescence assez classique de ces années 60, parce que 3-4 ans après, Antoine fait la même chose, et 4-5 ans avant, Jean-Pierre Calfon fait la même fugue, on va dire. Vous avez une génération de gens comme ça qui vont prendre le train, qui vont faire de l'autostop et qui vont se promener.
À quoi ressemble, en quelques mots, cette jeune scène musicale française, et je pense évidemment au Golf Drouot?
On peut la résumer en un seul nom, c'est Johnny Hallyday, c'est-à-dire que tous les gamins vont entendre Elvis Presley, vont le découvrir au cinéma, les premiers disques vont commencer à arriver, et tous les jeunes, tous les gamins de 15 à 18 ans, parce qu'au-delà de 20 ans on est décroulant, hein, se retrouvent dans Johnny Hallyday, et Christophe fait partie de cette histoire. Mais c'est quelqu'un qui est trop solitaire pour faire un groupe style Chaussettes Noires ou Chat Sauvage.
RTL Confidentiel,
Jean-Alphonse Richard.
Christophe a 18 ans, chanteur débutant qui brûle d'envie de monter sur scène. Mais à l'époque, même les yéyés n'échappent pas au service militaire. Presque 2 ans passés au 13e régiment des dragons parachutistes de Dieuze, en Moselle. Bien du mal à se plier à la discipline militaire. Il se fait la belle sur la Côte d'Azur. On le rattrape et il se retrouve à l'hôpital du Val-de-Grâce. Répertorié comme insoumis, finalement affecté dans une unité où l'on mate les durs à cuire. Le bataillon disciplinaire, mais ça ne m'a pas discipliné, dira le chanteur. Impossible de mettre en cage l'oiseau Christophe, qui n'a en tête que la musique et les jolies filles. Son premier amour s'appelait Françoise. Il avait 14 ans, elle en avait 19. Elle ne sortira jamais de sa mémoire et il gardera longtemps sa photo dans son portefeuille. Il croisera ensuite le chemin de nombreuses autres filles, parmi lesquelles, dans un cabinet de dentiste de la Côte d'Azur, une assistante médicale d'origine polonaise prénommée Aline. Aline et Christophe se fréquenteront pendant plusieurs mois à Paris, puis elle disparaîtra, laissant derrière elle un visage et un prénom. C'est ce prénom, Aline, qui, dit-il, sonne bien et n'est pas trop commun, qui lui vient à l'esprit quand il écrit à l'heure du déjeuner chez ses grands-parents à Juvisy l'une des 4 chansons de son 2e 45 tours. Aline, mélodie des cœurs brisés, est un slow qui sent les fins d'été et les amours de vacances. Le disque va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires et faire du jour au lendemain de Christophe, 20 ans, la première des stars romantiques.
Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Christophe peut alors commencer à rêver éveillé à des costumes italiens et à des voitures de luxe. Aline est traduite dans presque toutes les langues, portugais, espagnol, italien, allemand.
Écrive Mardir, Mardir, Aline, doch du warst fort.
Mais il faudra au chanteur attendre presque une dizaine d'années pour empocher les dividendes de son tube. Un interminable procès pour contrefaçon, diligenté par le chanteur Jacky Moulière et son producteur Henri Salvador, ne lui permettra pas tout de suite de profiter de cette corne d'abondance. Avec Aline, Christophe façonne la première partie de son image. Les groupies veulent aussitôt en savoir plus sur ce célibataire blond qui fait chavirer leur cœur. Pas si sage que cela, il a tout de suite un petit côté James Dean, fureur de vivre. On sait qu'il adore les Rolling Stones, qu'il roule à tombeau ouvert avec la voiture qu'il vient de s'offrir, une Ford Mustang, qu'il habite encore chez ses parents, mais ajoute-t-il, un appartement n'est pas indispensable pour un jeune homme qui, depuis ses 16 ans, vit comme un nomade. Farfelu Christophe titre alors un journal. Christophe est en pleine ascension. La chance est avec lui et il a toutes les audaces. Il sort aussitôt une deuxième chanson qui, elle aussi, va tourner en boucle à la radio. Comme pour Aline, les marionnettes ont leur légende. Christophe raconte qu'il en fabriquait lui-même quand il était enfant. Il les habillait de petits morceaux d'étoffe jetés par sa mère. Avec ce deuxième titre, le chanteur entre définitivement dans le club des jeunes romantiques, artistes pour minettes éplorées.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Les marionnettes confidentielles Christophe sur RTL.
RTL. Confidentiel Christophe avec Jean-Alphonse Richard.
Même s'il se verrait davantage un destin pur et dur de rocker, Christophe ne semble pour l'instant pas trop torturé par cette situation. Il se laisse donc porter par ses succès faciles. Il se paye des jouets hors de prix. Jaguar, Porsche, Rolls-Royce. Il aime aller vite, flamber et jouer avec le feu. Aux stations-service, il lui arrive de démarrer en trombe sans payer, en criant simplement au pompiste « Christophe, les marionnettes. Les filles, évidemment, succombent devant cette vedette qui, malgré ses complets bien taillés, cultive un petit côté voyou. Le 12 avril 1966, Christophe fait partie des 45 chanteurs et chanteuses qui posent devant l'objectif de Jean-Marie Perrier pour la photo mythique commandée par le journal Salut les copains. Toute la génération yéyé est là. Quoi qu'il arrive, Christophe vient d'entrer dans l'histoire de la chanson française. Le chanteur devrait exulter, mais il se sent déjà prisonnier de ses deux premiers tubes. Il a repris sur scène le dernier succès des Animals. Mais c'est toujours Aline que le public réclame. Il déclare « C'est Aline qui a marqué le début de ma carrière. Je suis obligé de rester dans le ton. » À l'hiver 1966, la presse dévoile la romance de Christophe avec la chanteuse Michel Thor. Il sort tout juste d'une série de galas avec elle en Belgique. Puis le chanteur et la chanteuse ont pris la direction de la Costa Brava. « Bon baiser d'Espagne », titre alors « Salut les copains », bien décidé à exploiter cette romance à l'eau de rose. Des photos banales, un récit passe-partout, tout semble cousu de fil blanc pour faire verser une larme aux fans. L'histoire d'amour, pourtant, est bien réelle. Ce qui m'a touché chez lui, c'est son regard perdu, déclara Michel Thor à François. Liaison tellement avérée que le 18 juin 1967 naît un petit garçon baptisé Romain. Christophe ne reconnaîtra jamais Romain et ne se mariera jamais avec Michel Thor. Il gardera pendant 40 ans le silence sur cette part d'ombre. Il y a eu des trucs intimes qui ne regardent que Michel et moi. Il y avait une espèce de haine, finira-t-il par avouer. Quand son producteur m'a demandé de reconnaître l'enfant, j'ai vécu cela comme une agression. Sans cela, cet enfant porterait peut-être mon nom. Bien plus tard, Romain viendra voir Christophe lors des concerts. Il leur arrivera de discuter, mais jamais le chanteur ne reviendra sur sa décision. Son fils ne portera pas le nom de Bévilacqua.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Christophe, une seule chanson, Aline, qui suffit à le rendre célèbre, chanson qui aujourd'hui encore est diffusée par les radios. C'est un slow vrai, véritablement éternel. Avec nous dans le studio de Confidentiel, Christian Eudeline, spécialiste du rock et de la pop. Racontez-nous, Christian Eudeline, comment est né précisément ce tube, Aline ?
Alors comment il est né ? Il a toujours dit que c'était une histoire d'amour qui s'était dédiée à une fille. C'était un peu une romance, mais il y a une vraie histoire à la base. Et puis ben voilà, il est malheureux et puis il écrit son nom parce qu'elle est partie. En gros, c'est ça l'histoire. Ça va être un énorme succès et ça va entraîner une sorte de jalousie. Il ne faut pas oublier que Aline de Christophe, Eddie Mitchell, il se fout de sa gueule. Qu'est-ce que ça montre, cette petite moquerie de Eddie Mitchell ? Ça veut dire que Christophe n'appartient pas à ces gens-là, à côté.
À côté du rock.
À côté du rock, à côté des idoles. Et puis il n'a pas de bande non plus. C'est-à-dire qu'il est déjà solitaire. Il y a Christophe et puis le reste.
Est-ce qu'il souffre à l'époque déjà, Christophe
Il ne souffre pas parce qu'il n'en a rien à faire. Il n'est pas là pour faire carrière, Christophe. Christophe, il sait qu'il va être artiste parce que c'est dans ses gènes. Il prend une guitare, il sent quand même qu'il a une voix, qu'il a un talent, qu'il a quelque chose. Il fait des disques parce qu'il sait qu'à un moment, il faut les faire. Il a des sous, il a du succès. Il va pouvoir faire ce qu'il veut, s'acheter des belles voitures de sport et puis commencer à courir des rallyes. Mais il n'est pas du tout là pour faire carrière, lui. Du tout, à aucun moment.
Est-ce qu'on peut dire qu'il fait des chansons avec une grande facilité, les chansons qui marchent immédiatement ?
Cette impression, parce qu'en 3-4 mois, les deux 45 tours sont très très proches en sortie. On se dit, il a une facilité. Mais en même temps, dans sa tête, il est un petit peu tourmenté quand même, et donc c'est pas facile d'avoir la note juste. Il y a cette fameuse note bleue que les bluesmen recherchent toute leur vie. Christophe, il est dans cette quête-là. C'est jamais terminé. Une sorte de tour de de Babel, on n'est jamais satisfait. Mais il va s'aérer autrement. C'est-à-dire que même en pleine gloire, il peut abandonner une tournée, prendre sa voiture, traverser la France pour aller voir la plage, pour aller visiter une boulangerie, pour aller dire bonjour à un copain. Il a cette liberté.
Alors vous le dites, l'amour de la liberté et puis ce côté très extrêmement solitaire, profondément solitaire de Christophe. Jamais il n'a eu de bande autour de lui. Il a des amis.
Il y a quand même quelqu'un de très très important, c'est l'éditeur Francis Dreyfus qui va s'occuper Christophe, qui va travailler avec Christophe pendant 20 ou 30 ans.
Et c'est sans doute le seul qui arrive un petit peu à le domestiquer entre guillemets.
Alors, même plus que ça, c'est-à-dire que Francis Dreyfus, donc c'est le fondateur du label Motor, c'était un éditeur dans les années 60, il a travaillé avec La Terre Entière, hein, Johnny Hallyday par exemple. Il va ouvrir les portes du studio Ferber à Christophe, il va dire « Compose, t'inquiète pas, tu as tout l'argent, tout le temps que tu veux nécessaire ». Et c'est lui, à un moment, Francis Dreyfus, qui appuie sur le bouton stop et qui lui dit « Maintenant, il me faut un album ». Voilà. Et ça, Christophe, on se rend compte qu'il en a besoin quand même, de quelqu'un en qui il peut faire confiance. Francis Dreyfus, c'est un amateur de jazz, c'est lui qui a révélé Michel Petrucciani, par exemple. Et il a besoin de cette personne qui le guide et qui lui dit à un moment, bon, cette chanson, elle est parfaite, on la sort parce que c'est pas possible. Et ça, c'est quand même l'une des personnes qui va faire partie de son entourage très proche.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Christophe a 22 ans. L'argent coule à flot, l'inconscience est son quotidien. Tous les plaisirs, même les plus défendus, sont à portée de main. Il est temps pour lui de devenir un rocker, un vrai, et de ranger Aline au rayon des souvenirs. Au printemps 1968, Christophe n'est pas sur les barricades. Il file le parfait amour avec Véronique, la sœur de son ami chanteur Alain Kahn. En la voyant danser dans une boîte de la contrescarpe, il a su que c'était elle, la femme de sa vie. Une espèce de volcan était entré dans mon existence. Je ne me suis jamais remis de tout ça, dit-il. Véronique sera effectivement pendant 28 ans une épouse omniprésente et la mère de leur fille Lucie. La seule femme à pouvoir comprendre cet homme qui ne vivra jamais comme tout le monde. Déjà, à cette époque, Christophe est un oiseau nocturne. Ses journées commencent vers 18h et s'achèvent le matin suivant. Son appartement du 16e arrondissement est un univers clos, aux fenêtres obstruées et aux murs noirs. L'endroit est meublé de jukebox, de guitares et de photos de pin-up des années 50, un écran blanc pour projeter de vieux films américains. Tous les appartements qui suivront, jusqu'à celui de Montparnasse, seront calqués sur ce même décor. Christophe écrit pour le cinéma 7 chansons pour Georges Lautner. Le film La route de Salina passe inaperçue, mais la voix hypnotique du chanteur tourne dans les clubs. Il s'empare aussi d'une chanson que Claude François a laissé tomber. Clo-Clo ne l'aimait pas. Mais Christophe en fait tout simplement le tube de l'été 1971.
La petite fille du troisième a toujours, oui elle a toujours des problèmes.
Avec ses gentilles chansons, Christophe a le sentiment de tourner en rond. Sa vraie vie est bien plus rock. Avec des expédients les plus divers, il y a tout d'abord la vitesse. Christophe est accro. Au volant de sa Ferrari, il lui arrive de descendre les Champs-Élysées de nuit à 150 km/h. Son permis lui sera un jour retiré. Il ne le récupérera jamais. Il y a ensuite le jeu, où de grosses liasses de billets sont sur la table. Les parties de poker clandestines au premier étage d'un café corse de Boulogne-Billancourt, ou les parties de pétanque, où les mises se chiffrent aussi en milliers de francs. Il y a aussi la drogue. Christophe a fumé son premier joint en 1964. Les années 70 sont celles d'une défonce plus sévère, la cocaïne. J'ai eu une période grosse dose, plein de gros sniffs, jusqu'au jour où je suis tombé, syncope, au studio, avouera-t-il à Thierry Ardisson, avant de revenir plus tard sur ses propos et d'affirmer qu'il avait bluffé et forcé le trait. Christophe va toujours jouer ainsi avec les vraies fausses déclarations, mélanger fausses pistes et petits mensonges, jouant avec les ombres, les silences et les mystères, au point de recomposer parfois le fil de son existence. Vrai magicien, puisqu'il fera un jour apparaître sur scène un perroquet sur son épaule. On croit tout savoir de lui, mais on se trompe. Les gens connaissent très peu ma vie, dit-il, parce que je l'ai très peu racontée.
De soie rose, je déambule morose, le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau retrouvera avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là.
Mais peut-être un beau jour, voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Paradis perdu, 1973, Christophe dans Confidentiel. Christophe, à tout de suite.
Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
En cette année 1973, Christophe s'offre une nouvelle peau. Des cheveux plus longs, un foulard. Il pose volontiers avec une canne à pommeau et surtout affiche cette moustache qui sera elle aussi sa signature. Il est devenu le dandy chic du rock français, bien décidé à tourner le dos au passé et à créer l'œuvre qui lui trotte dans la tête depuis des années. Il a recruté pour cela un parolier qui n'a pas encore rempli les stades, Jean-Michel Jarre. Le chantier est ambitieux.
Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre.
Les paradis perdus sont salués par la critique, mais le grand public boude et la télé fait l'impasse. Une seule apparition à l'heure du déjeuner dans une émission de sport. Mais Christophe s'accroche. Jean-Michel Jarre trouve alors la couleur qui lui va le mieux, non pas le noir de ses nuits, mais le bleu du ciel et de la mer.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule.
Les 26 et 27 novembre 1974, les spectateurs de l'Olympia assistent médusés à un concert qui va entrer dans la légende de la pop. Christophe a fait appel à l'illusionniste Dominique Webb. Sur scène, il s'envole avec son piano blanc, planant la tête en bas, presque au-dessus du public. Christophe s'envole et plus personne désormais ne va pouvoir l'attraper. De plus en plus imprévisible, surprenant, impossible à domestiquer. Même son producteur et meilleur ami Francis Dreyfus se lasse de ses caprices et de ses absences. Celle d'un chanteur qu'on ne voit plus, qui refuse les galas et ne se déplace quasiment jamais tant il a peur de prendre l'avion. Christophe ne sera allé qu'une seule fois aux États-Unis avec Daniel Filipacchi, qui lui avait fait découvrir New York.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Pour Christophe le Mystérieux, les années 80 sont cruelles. À force de jouer avec les miroirs et de faire des allers-retours, son image s'est brouillée. Le succès reste timide et le chanteur est blessé. C'est l'époque où il passe son temps à aller en Belgique pour aller acheter des jukebox de collection. On le voit passer la frontière en Rolls suivi d'un fourgon. Christophe s'ennuie. Toujours en Rolls, il court les marchés aux puces de Paris où il achète des lots de jeans et de t-shirts pour le plaisir de les revendre sur le parking du studio d'enregistrement à une poignée d'amis. La réédition d'Aline en 1980, plus d'un million d'exemplaires vendus, lui rapporte beaucoup d'argent, à croire qu'il est condamné pour l'éternité à être le maître des slows. À la cinquantaine, Christophe, sa vie en zigzag, est devenu quasiment invisible du grand public. Pas vraiment un ermite, mais un solitaire qui fuit la lumière. Boulevard Flandrin, où il habite, il fait et défait les chansons qu'il compose, aussitôt nées, aussitôt fanées, aussitôt effacées. Il signe un album de son vrai nom, Bévilacqua. La critique est dithyrambique, mais les fans restent timides. L'inconstance de Christophe viendra même à bout de Véronique, qui jusque-là avait tout accepté. Christophe quitte alors l'appartement familial pour aller s'installer pendant 4 mois dans un lieu où aucune vedette n'aurait l'idée de se réfugier. Un endroit à son image, extravagant, une caravane dans le camping du Bois de Boulogne. C'est là-bas que défileront producteurs, musiciens et attachés de presse pour savoir de quoi le nouveau Christophe sera fait. Comme d'habitude, il ne pourra pas leur fournir de réponse. On me reproche souvent de ne pas être dans la réalité. Il est vrai que si j'étais plus dans le présent, j'aurais acheté un grand appartement et je vivrais peinard alors qu'aujourd'hui, je n'ai rien d'autre que la musique. Christophe, qui aura toujours laissé le temps lui filer entre les doigts comme du sable. Il avait horreur des anniversaires, ces moments qui lui rappelaient que la vie va trop vite. À chaque retour sur scène, il apparaissait ainsi comme un spectre sans âge, un dandy un peu maudit, un peu vieilli, comme dit la chanson. Christophe détestait parler de la mort, il lui préférait la nuit, et c'est elle qui a emporté à 74 ans le dernier des Bévilacqua.
Petite fille du soleil, le matin va venir,
petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans tes nuits. Déjà le jour se lève. Comment te dire que tout est fini? Tout est fini. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Petite fille du soleil, surtout.
Petite fille du soleil, 1975, Confidentiel Christophe sur RTL.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Christophe, on vient de le voir, une vie où l'ombre chasse souvent la lumière, quitte à ne pas toujours réussir ce qu'il entreprend. Depuis une heure avec nous dans Confidentiel, le journaliste Christian Eudeline. Les mots bleus, Christian Eudeline, immense succès de Christophe et de Jean-Michel Jarre. Pourquoi ces deux-là n'ont pas continué à travailler ensemble?
Jean-Michel Jarre est un musicien né, hein, et il travaille déjà à l'IRCAM, un groupe de recherche sonore. Et son but, ce n'était pas du tout d'écrire des chansons, mais comme il avait fait des études littéraires, c'est l'éditeur Francis Dreyfus qui lui a dit « Tiens, tu ne peux pas écrire une chanson pour Christophe, ça l'aidera. » Parce que Christophe a peut-être aussi un petit peu de difficulté pour les mots, réellement. Francis Dreyfus dit « Mais tous les deux, vous avez un truc à faire. » Et voilà, il y aura deux chansons, et Jean-Michel Jarre, après, va faire des chansons instrumentales, Oxygène, qu'on connaît.
Pourquoi est-ce si difficile, finalement, de rester avec Christophe? Parce qu'on a l'impression que les musiciens et les écrivains passent.
Il y a une lenteur dans le travail de Christophe, il y a une recherche de la perfection qui peut tourner à la folie. Pendant 2-3 ans, il peut ne rien enregistrer, c'est-à-dire qu'il ne va pas au turbin tous les jours pour gagner des sous, et puis les tournées sont assez rares, parce que ça le gonfle, il préfère aller se promener, prendre son temps, aller acheter des jukebox en Belgique, collectionner les 78 tours avec son ami Daniel Filipacchi. Voilà, il prend la vie dans le bon sens.
Est-ce qu'on sait qui est vraiment Christophe? Parce que dans votre livre, vous dites...
Est-ce que lui le sait?
Dit lui-même que c'est un bluffeur, qu'il ment un petit peu, etc.
Non, quand vous l'interviewez, il est direct. Il n'y a pas de sujet sur lequel il ne veut pas parler. Ça, c'est assez rare. Mais lui, il a toujours un peu fui ses responsabilités par rapport à l'enfant qu'il a eu avec Michel Thor. Il n'était pas forcément présent. Avec sa femme, sa propre fille, ça peut-être un été un petit peu compliqué. C'est quelqu'un qui est fuyant un petit peu comme ça, mais par rapport à sa carrière aussi. Voilà, il peut disparaître. Hein. Francis Dreyfus racontait ses anecdotes où, même s'il savait où il était, il fallait qu'il aille chercher les bandes et qu'il le ramène pour finir l'album. Il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas une nécessité absolue de sortir un disque. Il préfère vivre. C'est un grand amateur de boules quand même. C'est quelqu'un, tous les jours, il jouait à la pétanque pendant des années. Et puis le reste du temps, il recherche un son qui est peut-être un petit peu une vue de l'esprit de temps en temps.
Quelle griffe est-ce qu'il laisse dans la chanson française ?
Des chansons magnifiques, une voix extraordinaire. Et si vous faites une comparaison, il n'aime pas ça, personne ne l'aime. La comparaison avec Michel Polnareff, une voix un petit peu fluette comme ça, presque féminine. Il y a quand même un monde. Christophe, il fait Aline parce qu'il sait que le public lui demande, mais c'est pas, il n'a pas envie de faire Aline toute sa vie, Christophe. Alors que Michel Polnareff a enregistré au moins 5 ou 6 fois ses vieux succès. Alors que Christophe, lui, il est chez lui dans son appartement à Montparnasse en train d'essayer un nouveau clavier, une nouvelle guitare. Il adore le son, quoi.
Merci Christian Heudelin de nous avoir accompagnés dans l'univers du beau, bizarre. Christophe, merci pour votre fidélité. Merci Justine Vigneault et François Touchard pour avoir préparé et réalisé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain avec une princesse, celle de la guerre des étoiles, princesse Leia, Carrie Fisher. Tout de suite, direction le grand studio pour le meilleur des grosses têtes orchestré demain de maître par Laurent Ruquier.
Vous écoutez RTL.